Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nina Hartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés est un essai de psychologie d'inspiration jungienne, devenu un ouvrage de référence sur l'imaginaire féminin. Publié en français chez Grasset, puis largement diffusé en poche, le livre s'appuie sur une matière narrative abondante, contes, mythes et légendes de traditions diverses. Pour explorer ce que l'autrice nomme la femme sauvage, à travers son double regard de psychanalyste et de conteuse. Estée propose une lecture symbolique des récits afin de mettre au jour des archétypes, des conflits intérieurs et des forces de restauration psychique. L'objectif n'est pas d'offrir un manuel de développement personnel au sens strict, mais un parcours d'interprétation invitant à retrouver l'instinct, la créativité, l'intuition et une forme de liberté intérieure que les conditionnements sociaux peuvent restreindre. Dense et méditatif, l'ouvrage vise autant l'intelligence du symbole que l'expérience intime du lecteur, en l'encourageant à relier les histoires aux étapes de sa propre vie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la femme sauvage comme archétype central, le concept le plus connu du livre est celui de la femme sauvage. Figure archétypale qui renvoie à une vitalité psychique profonde, à la capacité de sentir ce qui est juste, à l'élan créateur et à l'autonomie intérieure. Clarissa Pinkola Estés la présente moins comme un modèle social que comme un noyau instinctuel, souvent enfoui sous des couches d'adaptation, de conformité et de peur. Dans cette perspective, la souffrance ne vient pas uniquement d'événements extérieurs, mais aussi de la coupure d'avec une connaissance intime de soi, faite de rythmes, de limites, de désirs d'expression et de relations au vivant. Le livre explore comment cette part peut être muselée par des injonctions culturelles, y compris celles intégrées très tôt, et comment elle peut être reconnue sans se confondre avec une simple rébellion. L'enjeu est une reconquête de l'intégrité, où l'instinct n'est pas opposé à la pensée, mais lui redonne une base. L'archétype sert ainsi de boussole symbolique, permettant de relier les crises, les transitions et les choix personnels comme des appels au retour vers une vie psychique plus vraie et plus habitée. Deuxièmement, les contes et mythes comme outil de lecture psychologique. La méthode d'Estés repose sur l'idée que les récits traditionnels condensent des motifs universels et parlent à plusieurs niveaux, intellectuels, émotionnels et symboliques. Chaque conte devient un terrain d'exploration où l'autrice repère des images récurrentes, des figures de menaces, de secours, d'épreuves et de transformations. Plutôt que de traiter les histoires comme de simples divertissements, elle les approche comme des cartes de la psyché, capables d'éclairer des expériences contemporaines. Perte de repères, épuisement, sentiment d'étouffement, besoin d'appartenance ou de création. Cette lecture s'inscrit dans une tradition jungienne où le symbole n'est pas décoratif. Mais opérant, il ouvre un espace de sens et permet d'imaginer des issues là où la rationalité seule tourne en boucle. Le livre insiste aussi sur la valeur de la narration en elle-même. Écouter et raconter des histoires devient un acte de transmission et de réanimation intérieure. Le lecteur est invité à ne pas chercher une interprétation unique, mais à laisser les images résonner selon son histoire. Ainsi, l'ouvrage ne se limite pas à commenter des mythes, il propose une manière d'utiliser la culture narrative comme ressource psychique. Troisièmement, conditionnement culturel et réappropriation de la liberté intérieure. Un fil conducteur du livre consiste à montrer comment des normes sociales peuvent restreindre l'expression de la force féminine, en valorisant la docilité. L'effacement ou la performance au détriment de la spontanéité, de la colère juste, du repos et de la créativité, Estée décrit des mécanismes de domestication psychique, où l'on apprend à douter de ses perceptions, à minimiser ses besoins et à considérer l'instinct comme dangereux ou irrationnel. L'enjeu n'est pas de dresser un réquisitoire sociologique exhaustif, mais de souligner comment ces pressions deviennent intérieures et agissent comme une censure. Les contes analysés servent à illustrer des situations de pièges, d'illusions, de promesses trompeuses ou de territoires interdits. Autant de métaphores de ce qui éloigne de la vie authentique. La réappropriation passe par une reconquête graduelle, écouter les signaux, nommer ce qui blesse. Choisir des relations et des contextes qui nourrissent, protéger ce qui a besoin de silence pour grandir. Le livre valorise une liberté qui n'est pas seulement sociale, mais psychique, la capacité d'habiter sa vie avec discernement, courage et fidélité à une vérité intérieure. Cette perspective a contribué à faire de l'ouvrage un classique, situé au croisement de la psychologie, du symbolique et d'une réflexion sur l'émancipation. Quatrièmement, le cycle vie-mort-vie et la transformation par les épreuves. Parmi les idées marquantes associées au travail d'Estée, figure une logique de transformation où certaines phases de la vie impliquent une forme de fin, perte, rupture, désillusion, dessèchement, avant qu'un renouveau ne devienne possible. Le livre aborde ces passages comme des processus initiatiques plutôt que comme des échecs, en montrant que l'âme, au sens psychologique, se recompose souvent après une descente, un dépouillement ou une confrontation avec ce qui a été évité. Cette dynamique vie, mort-vie éclaire des expériences courantes, quitter un ancien rôle, renoncer à une relation qui détruit, accepter une vulnérabilité, traverser une période de silence créatif. Les récits traditionnels mettent en scène des moments où l'élan vital semble captif, puis retrouve un chemin grâce à une décision, une aide symbolique ou une patience attentive. Esthèse insiste sur la nécessité d'honorer les temps de deuil et de maturation, au lieu de chercher immédiatement des solutions rapides. La transformation apparaît alors comme un acte de fidélité à la vie intérieure, où l'on accepte de laisser mourir ce qui ne convient plus afin de faire place à une forme plus juste de présence au monde. Cette lecture donne au lecteur un cadre pour comprendre ces passages difficiles sans les réduire à une simple pathologie. En dernier lieu, créativité. Intuition et puissance du récit dans la guérison, Femmes qui courent avec les loups associe étroitement vitalité psychique et créativité, entendue au sens large, art, travail. Soin, pensée, manière d'aimer et de décider. Esthée présente la créativité comme une fonction naturelle de l'âme qui se tarit lorsqu'on vit dans la peur, la honte ou le surcontrôle, et qui revient lorsqu'on se reconnecte à l'intuition et à l'instinct. Le livre souligne aussi le rôle thérapeutique du récit. Non seulement analyser des histoires, mais s'en servir pour retrouver des images de force, de ruse, de persévérance et de renaissance. Dans cette approche, l'intuition n'est pas une magie, c'est une intelligence de l'expérience, un savoir corporel et émotionnel qui aide à repérer ce qui est nourrissant ou toxique. L'autrice invite à écouter les signaux subtils, à respecter les limites et à préserver l'espace intérieur nécessaire à l'émergence d'une vie créative. La guérison n'est pas décrite comme un retour à un état antérieur, mais comme une réintégration, récupérer des parts de soi dissociées, réhabiliter des émotions, restaurer la capacité de choisir. En reliant créativité et récit, Esthée propose une voie où l'on se soigne aussi par le sens, par l'imaginaire et par la permission retrouvée d'être pleinement vivant. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs attirés par la psychologie des profondeurs, la pensée jungienne, les mythes et la symbolique. En particulier aux femmes qui cherchent des mots et des images pour comprendre une sensation d'appauvrissement intérieur ou de perte d'élan. Il peut aussi intéresser toute personne curieuse de la manière dont les récits traditionnels éclairent les enjeux contemporains, identité, liberté, créativité, rapport au corps. La nature et aux normes. Le bénéfice principal est intellectuel et existentiel, apprendre à lire les histoires comme des miroirs de la psyché et, ce faisant, repérer des schémas de peur, de conformité ou d'autocensure, puis imaginer des gestes concrets de reconnexion, protéger son intuition, nourrir son travail créatif, sortir de relations stérilisantes, accepter des cycles de transformation. L'ouvrage se distingue dans sa catégorie par son ampleur. Sa dimension poétique et sa volonté de réhabiliter l'imaginaire comme voie de connaissance de soi, plutôt que de proposer des recettes rapides. Par rapport à des essais de développement personnel plus prescriptifs, il offre une expérience de lecture dense qui demande du temps, mais qui peut l'accompagner durablement. Sa force est de redonner une dignité psychique aux forces instinctuelles et d'inviter à une liberté intérieure qui se construit, patiemment, au contact des symboles et de la vie réelle. Si vous souhaitez soutenir Larissa Pinkola Esthée, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!